Kiosque Magazine.
Jeudi 29 janvier, mois de janvier qui a passé, mon Dieu, mais ça s'est passé tellement rapidement. Si vous ne l'avez pas encore fait, sortez ce matin, il y a une lumière, mais absolument magnifique dehors, c'est génial. En fait, on dirait que l'hiver veut se faire pardonner. Ceci dit, on va quand même vous parler d'économie et d'emploi, c'est notre mandat. À mes côtés, Éric Desbelleval, François Brodeur au micro, et derrière la vitre, l'homme qui gère les boutons et nous deux, finalement, Rémi Hermoso. Éric, de quoi parlons-nous ce matin?
Eh bien, François, on va commencer par la mine et y descendre pour constater qu'il est devenu impossible de ne pas prendre en considération les impacts sur l'environnement, évidemment, de toute activité économique, à commencer par l'industrie. Et au sein même de l'industrie, on s'en doute, l'exploitation minière tient une place de choix pour ce qui est des bouleversements environnementaux. Le problème, c'est que lorsque l'activité d'exploitation s'arrête, eh ben, les problèmes environnementaux demeurent, et pour longtemps. On va s'intéresser à un triste exemple des mines abandonnées et des coûts induits après les dommages causés, même si un plan surprise semble être sorti du chapeau des pouvoirs publics. Ensuite, on traverse l'Atlantique et on va en Europe et se demander que pourra faire Mario Draghi. Mario Draghi, je vous le rappelle, c'est le président de la Banque Centrale Européenne, si le rachat de dettes qu'il a décidé est un échec. L'institution monétaire s'est résignée à racheter à partir de mars jusqu'à 60 milliards d'euros de dette publique. 60 milliards d'euros, ça fait à peu près 50 milliards de dollars. Et privé chaque mois, au moins jusqu'à la fin septembre 2016. Une offensive qui était très attendue devant la faiblesse récurrente des prix dans la zone euro. Mais beaucoup doutent qu'elle soit la solution miracle aux maux européens.
Et surtout en Allemagne, mais on pourra débattre.
Et puis, difficile de ne pas parler de la Grèce aujourd'hui. Ça nous changera un peu de l'Arabie Saoudite. Alors, il y a ce qu'on appelle le problème grec, entre guillemets, de façon un petit peu dur, je trouve. Et début décembre 2014, vu de Bruxelles, la situation paraissait encore sous contrôle, hein, à la Commission européenne et au Conseil. Le Conseil, je vous rappelle que c'est la réunion des 28 États membres. On croyait au pari du Premier ministre conservateur à l'époque, hein, M. Samaras, et son candidat, qui était un ex-commissaire européen, Dimas, serait nommé au poste de président de la République, la continuité du gouvernement Athènes serait assurée, les créanciers du pays, etc., etc. La fameuse Troïka pourrait continuer à négocier. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. On en parlera.
Et de mon côté, je vous parle, tiens, donc, est-ce qu'on a parlé d'argent avec ses enfants? C'est une bonne question. Doit-on parler d'argent? Je dois vous dire que moi, mon éducation financière, je la tiens de mon père et c'est très, très botanique. En termes clairs, c'est l'argent ne pousse pas dans les arbres. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris la finance. On peut aussi discuter des liquidités en entreprise. On a déjà parlé à ce micro, les ministres des Finances, le gouverneur de la Banque du Canada mettaient de la pression pour que les entreprises réinvestissent. On sait que les taux d'imposition des entreprises au Québec sont parmi les plus bas au monde et c'est une faveur qu'on leur a donnée pour leur permettre d'investir. Et bien aujourd'hui, on a des entreprises assises sur des monceaux d'argent qu'ils ne dépensent pas. Alors, est-ce qu'on a bien fait? Et pour commencer, dans quelques instants, je vous parle de libre-échange avec l'Europe. Et vous allez voir, c'est pas gagné. Oui, alors, il y a de l'eau dans le gaz en ce qui concerne l'AECG, puisque la France et l'Allemagne se posent des questions sur la clause d'arbitrage. La clause d'arbitrage qui doit servir à protéger les investissements. Je vous explique un peu le contexte pour les gens qui ne sont pas familiers avec les traités de libre-échange. On ne fait pas que protéger l'exportation en pays étranger, on protège aussi l'investissement. C'est-à-dire que si une entreprise européenne s'installe chez nous, l'investisseur européen, comme l'investisseur américain aujourd'hui d'ailleurs, a le droit de voir son investissement protégé contre la politique locale. En termes clairs, c'est si des lois québécoises faisant en sorte qu'il était spolié de ses investissements, eh bien, il y aurait droit de demander un dédommagement. Dans le cas du traité de l'ALENA, un dédommagement qui comprendrait les profits pendant une dizaine d'années, par exemple. C'est ce qui fait qu'actuellement, le gouvernement du Québec est poursuivi en vertu de l'ALENA pour avoir empêché les investisseurs américains d'investir avec du cash canadien pour extraire du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. On sait que le gaz de schiste, ça n'a pas fonctionné. Résultat, la compagnie américaine qui se préparait à le faire poursuit devant, non pas un tribunal québécois, parce qu'on se dit que ce n'est pas juste, mais un tribunal d'arbitrage en vertu de l'ALENA. Alors, ces clauses-là qui protègent les investisseurs, vous le voyez, sont une façon aussi de... priver un gouvernement d'une partie de sa juridiction. C'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement conservateur qui avait négocié l'ALENA était tellement content de cette clause-là. Ça fait en sorte qu'on se garantit que pour les années à venir, même si on change de gouvernement, eh bien, le gouvernement ne pourra pas agir dans tel ou tel domaine de l'industrie. Et ça fait le bonheur des républicains aux États-Unis et des conservateurs au Canada. Or, la France et l'Allemagne la trouvent beaucoup moins drôle. C'est ce qu'on va voir. Nouvel obstacle sur la voie de la ratification, Christian Rioux, Le Devoir du 27 janvier. Les obstacles se multiplient sur la voie de la ratification de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Ce traité, baptisé Accord économique et commercial global, l'AECG, dont les négociations se sont officiellement arrêtées en septembre 2014, pourrait devoir être à nouveau modifié afin d'être ratifié par les 28 pays membres de l'Union européenne. Depuis une semaine, l'opposition ne vient pas que de la France, mais aussi de l'Allemagne, qui s'inquiète, elle aussi, du mécanisme de règlement des différends prévu dans le traité et de son impact sur la souveraineté des États. La semaine dernière, s'est tenue à Berlin une rencontre entre le ministre allemand de l'économie, Sigmar Gabriel, et le secrétaire d'État français chargé du commerce extérieur, Matthias Fekl. Ces échanges devraient nous inciter à apporter des modifications à l'AECG, ont conclu les ministres au terme de cette rencontre, à laquelle participait aussi le secrétaire allemand aux affaires économiques et à l'énergie, Matthias Maschnick. Les représentants français et allemands se disent prêts à examiner toutes les options de modification du traité négocié depuis 2009 avec le Canada. Selon les ministres, le mécanisme de règlement des différends commerciaux mettrait en cause la souveraineté nationale en permettant aux entreprises de poursuivre indûment les États devant des tribunaux d'arbitrage. Cela pourrait impliquer la réécriture des chapitres 10 et 33 du traité relatif à la protection des investissements étrangers. C'est la première fois que Paris et Berlin s'expriment aussi clairement et d'un commun accord en faveur d'une réécriture du traité. Et là, on n'est plus dans la négociation de détail, on parle de réécriture de chapitres complets. Les ministres se faisaient ainsi l'écho de la large consultation populaire qui s'est déroulée dans les pays de l'Union européenne à propos d'un autre accord en cours de négociation, cette fois avec les États-Unis. Paris et Berlin craignent en effet que l'accord avec le Canada ne crée un précédent qui s'appliquerait aux négociations en cours avec Washington. La consultation publique menée récemment par Bruxelles a révélé une opposition massive à ce mécanisme de règlement des différends. 88 % des 150 000 personnes consultées se sont prononcées contre. Même si cette consultation n'était pas un sondage, souligne le commissaire au commerce de la Commission européenne, Cecilia Malmström, elle montre bien que les Européens sont très sceptiques, dit-elle. La commissaire précise que jamais la Commission n'accepterait de signer un accord qui affaiblirait nos normes ou limiterait la capacité de nos gouvernements à légiférer. Le Canada pourrait donc être contraint de revenir à la table de négociation. La ratification de l'accord est en effet loin d'être garantie, notamment au Parlement européen. En France et en Allemagne, il n'existe pas de majorité pour ratifier la clause d'arbitrage, a déclaré au magazine Marianne le secrétaire d'État français du commerce extérieur, Matthias Fekl. Le 23 novembre dernier, l'Assemblée nationale française a adopté une résolution s'opposant à un tel mécanisme de règlement des différends investisseurs-États et exigeant des précisions détaillées sur les modalités de composition, de saisine, de décision et de contrôle du processus de coopération réglementaire. Le Sénat a adopté la même position le 27 novembre. Selon un rapport soumis au Parlement européen par Bernd Lange, président de la Commission du commerce international, les recours devant ces tribunaux d'arbitrage spécialisés menaceraient la capacité des États de légiférer pour protéger l'environnement ou les normes du travail. La France et l'Allemagne veulent éviter les poursuites abusives comme celle déposée en octobre dernier par le groupe suédois Vattenfall devant l'International Center for Settlement of Investment Disputes à Washington. L'entreprise, qui exploite deux centrales nucléaires en Allemagne, réclame une compensation de plus de 4 milliards d'euros pour la sortie du nucléaire civil annoncée par Angela Merkel au lendemain de la catastrophe de Fukushima. Est-ce que ça veut dire que l'Allemagne est encore dans le nucléaire militaire? Il faut réfléchir à des mécanismes d'appel des décisions arbitrales, a déclaré le secrétaire d'État français Matthias Fekl au magazine Marianne. Aujourd'hui, un groupe qui attaque un État ne risque rien, si ce n'est les frais de procédure. Il faut donc mettre en place des possibilités de condamnation dissuasive Il faut aussi regarder du côté des arbitres et lutter résolument contre les conflits d'intérêts. Le mois dernier, Thomas Mulcair, chef de l'opposition officielle à Ottawa, était venu en France plaider pour la modification de ce mécanisme d'arbitrage. Bien que les négociations entre le Canada et l'Union européenne se soient officiellement interrompues en septembre dernier, l'ouverture de négociations entre l'Union européenne et les États-Unis relance le débat. Avec la publication de ces recommandations, on entre dans une nouvelle phase au sein de l'Union européenne, dit Matthias Fekl. Il faut inventer l'arbitrage investisseur-État du 21e siècle. On se rappellera que même si un accord de principe était intervenu le 18 octobre 2013 entre Bruxelles et Ottawa, il avait fallu négocier encore 10 mois de plus pour s'entendre sur un texte précis. Vu d'Europe, il se pourrait que l'exercice ne soit toujours pas terminé. Alors, on le voit, c'est loin d'être signé cet accord-là. Et pour vous donner un exemple, j'en ai un autre. Tiens, si l'ALENA avait été en vigueur dans les années 60, eh bien, Hydro-Québec ne serait jamais venu au monde parce qu'on n'aurait jamais pu nationaliser l'électricité. Le père de Preston Manning, jadis, avait eu cette citation délicieuse qui disait « Si vous êtes dans le trou et que vous voulez vous en sortir, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. » Ceci pour vous parler de mines, de sites miniers, en fait, de sites contaminés. On le sait, on en a déjà parlé à ce micro, il y en a près de 700 au Québec.
Oui, il y en a près de 700. Et malheureusement, François, j'ai peur que l'idée d'arrêter de creuser ne soit pas vraiment à l'ordre du jour et ça va continuer un certain temps. Alors, c'est un vrai problème, ces 700 sites miniers à restaurer. Hein, la facture est estimée à 1,2 milliard de dollars. Et alors, évidemment, c'est un problème pour la beauté des lieux, pour les perturbations causées à l'environnement immédiat et pour les finances. Alors, pas pour les finances des compagnies minières, hein, mais pour les finances des contribuables. C'est bien ça qui pose problème. Alors, je vais vous lire un article qui est paru dans Le Devoir sous la signature d'Alexandre Shields et qui date du 26 janvier. Comme par hasard, le journal a sorti son petit pamphlet le 26 et le 27, eh bien, le ministère, lui, a sorti un plan qui, paraît-il, était tout prêt pour que les choses s'arrangent. Ça ressemble un peu à un miracle. Mais je suis sûr qu'Alexandre Shields va suivre ça de très près et on va voir si les promesses, selon le vieil adage, n'engagent que ceux qui les reçoivent. Au rythme actuel des investissements consentis par l'État, le Québec mettra près d'un siècle pour venir à bout de la restauration environnementale des 700 sites miniers abandonnés par la province. Abandonnés par la province, a constaté Le Devoir. Et pour le moment, le ministère des Ressources naturelles n'a toujours pas de plan formel, donc là on est le 26, mais le 27 ça change, pour mettre un terme à cet héritage toxique. De nouvelles données obtenues auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles indiquent que le gouvernement du Québec a dépensé près de 103 millions de dollars au cours des 8 dernières années, dans la gestion du « passif environnemental minier », entre guillemets. Ce montant équivaut à une moyenne annuelle de 12,8 millions de dollars depuis que Québec a inscrit ses sites abandonnés au compte public en 2007. Après avoir dépassé les 15 millions de dollars par année entre 2011 et 2013, les dépenses pour la restauration ont chuté à 10,6 millions l'an dernier. Or, la facture totale chiffrée par le ministère en mars 2013 précise que l'État québécois devrait injecter 1,2 milliard de dollars de fonds publics pour compléter la restauration des 700 sites disséminés sur le territoire. En supposant que le gouvernement décide de maintenir la moyenne annuelle actuelle des montants dépensés, il faudra un total de 93 ans, pour venir à bout de cet héritage, fruit de décennies de négligence environnementale. En calculant les redevances minières perçues par l'État et celles estimées pour la période 2012-2017, la facture totale pour la restauration des sites miniers orphelins équivaut en outre à se priver complètement de redevances pendant une décennie. Ce montant est également similaire à ce qu'il faudrait investir pour régler les problèmes de qualité de l'air des écoles de Montréal, selon la Coalition pour des écoles saines. Fait à noter, la facture connue à l'heure actuelle pourrait devoir être revue à la hausse. Tout est toujours revu à la hausse. Par exemple, l'automne dernier, la mine Québec Lithium a fermé prématurément ses portes. Et ce, avant même d'avoir versé un sou de la garantie financière censée permettre la restauration du site minier. Or, cette garantie, tenez-vous bien, avait été fixée à 25,6 millions de dollars. Et en plus de devoir assumer la facture, les contribuables pourraient devoir faire une croix sur les aides financières totalisant 65 millions accordées par Investissement Québec. Par ailleurs, on ne sait pas à l'heure actuelle si d'autres projets miniers n'ont toujours pas versé la garantie financière pour la restauration de leur site d'exploitation, une fois le minerai tiré du sol. En théorie, la loi oblige les exploitants à déposer une garantie financière couvrant 100% des coûts de restauration. Exception notable, les fosses à ciel ouvert sont exclues de cette mesure. Or, les principaux projets de développement, en développement pardon, au Québec à l'heure actuelle sont justement des mines comportant de gigantesques fosses à ciel ouvert. Cela signifie que les fosses de mines comme Osisko à Malartic resteront bien présentes dans le paysage pendant au moins plusieurs décennies.
Et je rappelle ici que la mine d'Osisko à Malartic, ben, elle est en ville. Alors, c'est un trou qu'ils vont devoir vivre avec pendant...
Arrêtez de creuser, par pitié. Mmh. Même si la restauration des sites miniers abandonnés, entièrement assumés par le Trésor public, nécessitera des investissements substantiels pour plusieurs années, le gouvernement du Québec n'a aucun plan formel pour encadrer la mise en œuvre de ces dépenses. Bon, alors, à rectifier le 27, je ne sais pas. Le ministère a confirmé au devoir qu'aucun plan d'action n'existait. Extraordinaire, parce qu'ils disent ça le 26 et le 27, ils en sortent un. Bon, enfin, moi je...
Pire que ça, non, ils ne sortent pas le 27. Ils disent le 27 oui, qu'il oui, en oui. avait
oui,
un
c'est
avant.
Ça. Ah, oui. oui, oh, on l'a retrouvé. Ah, il coinçait une armoire, là. Une mesure inscrite dans le budget 2012-2013 indique simplement que la mise en place d'un plan de, réhabilitation, j'arrive même pas à le prononcer tellement j'y crois pas, est envisagée dans le but de réduire, ah là là, le beau mot, le passif environnemental de 50% sur une période de 10 ans devant se terminer en 2022. Ça voudrait dire que le gouvernement aurait dû faire passer les investissements annuels à quelque 40 millions, et ce, depuis déjà 2 ans, ça n'a pas été fait. Selon les informations publiées par le ministère, 198 des quelque 700 sites abandonnés sont d'anciennes mines ayant connu une exploitation. Au moins une cinquantaine de ces sites ont besoin de travaux de décontamination qualifiés de majeurs par Québec. Des travaux de restauration ont d'ailleurs été entrepris en priorité sur ces sites problématiques, dont certains contiennent d'importantes quantités de résidus miniers acides. Plusieurs sites sont situés en Abitibi, Témiscamingue, une région où l'industrie minière est très présente depuis plusieurs décennies. Dans certains cas, des métaux lourds doivent être récupérés, notamment pour éviter davantage de migration de la pollution. Bien souvent, l'équipement a été laissé à l'abandon ou encore des camps miniers entiers. Merci les mineurs, hein, vraiment vous êtes sympas. L'État doit aussi décontaminer un total de 488 sites d'exploration minière. Seulement au Nunavik, on compte 275 de ces sites dont 18 ont été classés majeurs. Pour régler le cas des sites orphelins qui sont à la charge de Québec, la coalition Québec Meilleure Mine a déjà proposé l'adoption d'une redevance spéciale d'environ 1% pour financer un fonds de restauration des sites miniers abandonnés au Québec. Cette proposition a été rejetée non seulement par l'industrie minière, mais aussi par les gouvernements libéral et péquiste. C'est terrible parce qu'une mine abandonnée, je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à la fin du monde.
Doutor, jogava o Flamengo e eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Sem dó. Falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo, um pulinho, um instantinho no bar, bastou. Durante 10 noites me faz jejuar. Levou minhas cueca pra um bruxo rezar. Uou. Meu café na calça pra me segurar. Se eu tô, ai, se eu tô devendo dinheiro e venho me cobrar. E venho me cobrar. Doutor, ai, doutor, aperta pra porta e ainda manda sentar. E ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego, que é pra melhorar, que é só pra melhorar. Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai doutor, se eu peço
ela deixa salgar.
Calor, ai calor, mas já tinha casaco pra me atazanar.
Só pra atazanar.
E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar.
Mandou eu jogar
no burro,
foi no burro.
E deu na cabeça sem humilha.
Ai, quero me separar.
Et on revient pour vous parler de fiscalité. Oui, je sais, vous adorez parler d'impôts. Moi-même, je ne peux pas me retenir à tous les repas, il faut que je parle de fiscalité. Cette fois-ci, je vous parle de fiscalité des entreprises, puisqu'on se le rappellera, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque du Canada, va appeler les entreprises à investir. Eh bien, l'IRIS, qui est un institut de recherche de gauche, je vous le rappelle, a sorti une étude et ça a donné lieu à un texte de Gérard Bérubé dans Le Devoir d'aujourd'hui. Avec plus de 600 milliards dans leur coffre, les sociétés font un mauvais usage des baisses d'impôts qui leur ont été consenties, juge l'IRIS. Malgré les appels répétés à l'investissement, les entreprises non financières canadiennes demeurent confortablement assises sur une montagne de liquidités. Cet amoncellement d'encaisses oisives sans autre fonction économique positive ne peut être dissocié de la baisse de l'impôt sur les revenus offerte aux entreprises, nous dit l'IRIS. Il n'est pas si lointain cet appel formulé en août 2012 par Mark Carney, alors gouverneur de la Banque du Canada, exhortant les entreprises canadiennes à contribuer à la reprise économique. Il déplorait alors le fait que les entreprises demeurent assises sur plus de 6 milliards d'argent qui dort, les accusant de manifester un conservatisme excessif. Ce discours avait été repris par feu Jim Flaherty, alors ministre des Finances. Dans sa note de 16 pages dévoilée mardi, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, dresse un portrait de la surépargne des entreprises non financières au Canada.
Pardon, François, de vous interrompre, vous avez dit 6 milliards, c'est 600 milliards.
600 milliards, oui. Ces liquidités non productives accumulées sont évaluées à 604 milliards en 2013, soit l'équivalent de 32 % du produit intérieur brut canadien. L'IRIS retient que ce pourcentage place le Canada au sommet du palmarès de la revue The Economist, derrière celui mesuré au Japon, qui est à 44 % et en Corée du Sud à 34. Ces liquidités qui accumulent les entreprises non financières ne représentent que 11 % du produit intérieur brut aux États-Unis et un peu moins de 20 % en Allemagne, reprend la note présentée mardi par Éric Pinault, chercheur associé à l'IRIS et professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Par extrapolation, au Québec, la masse d'épargne des entreprises non financières atteindrait les 111 milliards, soit près du tiers du produit intérieur brut. L'IRIS démontre que cet amoncellement n'est pas un reliquat d'une crise financière, celle de 2008 ayant fait ressortir un risque de liquidité. Cette notion de précaution ne tient pas malgré l'apparition d'une convention financière « soyez liquide », meublant désormais les évaluations des analystes. L'accélération de l'accumulation d'actifs liquides remonte plutôt à deux périodes, soit entre 1996 et 2000, puis entre 2003 et 2008. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? On a simplement baissé les impôts des entreprises, justement pour leur permettre d'investir. Alors, il faut comprendre que tout cet argent-là ne circule plus dans l'économie. Il est pilé par des entreprises, finalement. C'est une bonne et une mauvaise chose parce que ça leur donne des reins plus solides, mais ça ralentit énormément l'économie canadienne. Et surtout, bien, ça déplace une partie du fardeau fiscal parce que l'impôt que les entreprises ne paient pas, ce sont les contribuables qui le paient. Alors, si vous avez une entreprise, plutôt que de vous payer des dividendes et de payer des impôts sur vos profits, ce que vous faites, c'est que vous laissez ça dans l'entreprise en disant « je m'en servirai éventuellement plus tard » et en attendant, je ne paye pas d'impôts sur ces sommes-là. Résultat, c'est improductif.
Quelques nouvelles du métro de Montréal et une nouvelle
tuile. Il fonctionne!
Oui. J'ai entendu dire que la totalité de son système informatique pouvait tenir dans un téléphone portable. Ça explique bien des choses, sans doute. Oui, alors une nouvelle tuile pour Bombardier, puisqu'on a suspendu la production des voitures du métro. Et ça commence à être un thème un peu récurrent. Hein. Au cours des années 2012-2013, Bombardier avait fait des progrès substantiels pour améliorer les revenus et le flux de trésorerie dans sa division ferroviaire. Et bien, cette histoire-là ne va pas arranger les choses. Et puis, vous l'avez peut-être vu, là, Bombardier a maintenant sur le dos des accusations de corruption pour la construction d'un métro en Corée. Il faut dire que ce métro n'a qu'une voiture. C'est quand même un peu gênant.
Tiens, je vais vous parler de fixation du prix en économie. C'est important, la fixation du prix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un produit est à 99,99 et un autre à côté à 100$? Et qu'est-ce qui fait que vous allez acheter celui à 100$ ou celui à 99,99? Eh bien, il y a une étude très sérieuse qui est parue qui nous prouve que quand on dit, par exemple, 99,99, c'est l'aspect rationnel de votre cerveau qui va analyser le produit et ses besoins. Et si on vous dit 100$, c'est beaucoup plus émotif. À ce moment-là, c'est plus porté vers l'achat impulsif. Et c'est vrai, ça. Donc, dans la fixation des prix, par exemple, si vous avez un parfum, là, c'est plus émotif, c'est plus esthétique, bon, vous allez fixer ça avec un chiffre rond. Et si, par contre, vous voulez vendre, je ne sais pas moi, un outil X, Y ou Z, quelque chose de tout à fait ennuyeux à acheter, vous allez dire, par exemple, 48,64. À ce moment-là, ça devient rationnel.
Mais dans les deux cas, il s'agit quand même de me faire acheter des choses dont je n'ai pas besoin.
Dans tous les cas de figure.
D'accord. Oui, des nouvelles de l'inflation aussi. Eh bien, elle a fléchi hein, à 1,5% sur un an au Canada. C'est les chiffres de décembre qui permettent de faire cette moyenne. Donc, c'est moins que prévu hein, en raison, évidemment, de la baisse des prix de l'essence. Et la hausse des prix a quand même ralenti par rapport à novembre, où elle avait atteint 2% sur un an. Donc, c'est une différence substantielle.
Tiens, je vous ramène, moi, en Suisse. En Suisse, où les banques de données suisses vont devenir aux banques de données, ce que les banques suisses sont aux banques tout court. Il semblerait que ce soit le nouvel Eldorado pour l'économie suisse. Héberger des données à l'abri des regards inquisiteurs du gouvernement américain, du gouvernement européen, de toutes les tentatives pour empêcher la cryptation des messages. Bref, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent leurs données à l'abri en Suisse.
Une belle initiative depuis lundi. Les avocats sont au métro Berri-UQAM pour donner des consultations gratuites. Cette nouvelle de vous faire chaud au cœur, François.
Oui, je vous rappelle ce que disait Flaubert à propos du droit. En fait, la justice est gratuite. Heureusement, elle n'est pas obligatoire. Tiens, on n'avait pas encore parlé de pétrole à cette émission. C'est scandaleux. Ça fait pas sérieux du tout. Eh bien, sachez-le, on a sorti 161 barils de pétrole par jour de la Gaspésie. Ça y est, on a le premier puits qui serait commercialement rentable. Il n'est pas encore tout à fait en exploitation commerciale parce qu'il faut l'envoyer quelque part, ce pétrole-là, mais c'est fait. On a sorti du pétrole à vendre du Québec. Vous l'entendez, c'est déjà la fin de cette première partie de l'émission. On fait une pause et on se retrouve pour la seconde dans quelques instants.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Kiosque Magazine, deuxième partie. Donc, en Europe, il s'est passé quelque chose d'absolument terrible. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, puis je vous mets un peu dans le contexte, la Banque centrale européenne prend le modèle américain. Aux États-Unis, on a racheté énormément de créances publiques pour injecter de l'argent dans l'économie et relancer la machine. Ça fait école, sauf qu'en Europe, jamais la Banque centrale avait fait ça. C'est quelque chose qui était la prérogative des États jusqu'à maintenant.
Alors, c'est une première, mais on peut se demander si elle ne le fait pas un petit peu tard. Donc, ça risque d'être un facteur handicapant pour que ça donne des résultats en tant que nouvelle politique. Alors, effectivement, c'est un programme ambitieux, hein, plus de 1 000 milliards d'euros, je crois 1 150 exactement, de rachat de dettes destinés à soutenir la zone euro. C'est un peu la dernière cartouche que brûle la BCE et Mario Draghi, donc son président, est un peu à court d'options maintenant. Je ne vois pas ce qu'il peut faire après si ça ne fonctionne pas. Alors c'est la question qui a intéressé un journaliste de l'agence France Presse, Marie-Julien, et qui l'a écrit d'ailleurs avec un autre qui s'appelle Benoît Toussaint, et ça a été repris par Le Devoir. Les taux directeurs, outils traditionnels de la politique monétaire, sont déjà au plus bas, 0,05% depuis septembre pour le principal. Hein, donc je vous rappelle que le taux directeur, c'est ce qui permet aux banques de prêter derrière et de faire un petit bénéfice.
Ceci dit, au plus bas, actuellement, le taux directeur de la Suisse est négatif.
Oui.
C'est-à-dire que si
c'est
vous
vrai,
achetez de l'argent en Suisse, on vous en envoie plus.
Ouais, ben c'est amusant. C'est comme le sketch de Coluche. Hein. Qu'est-ce qui est plus blanc que blanc? La lessive. Bon, enfin bref. Quant aux autres mesures dites non traditionnelles déjà mises en œuvre, des prêts géants pour les banques et des achats ciblés de titres financiers, des prêts géants pour les banques, il faudrait en reparler parce que le gros problème, c'est que tout l'argent qu'on leur a prêté n'est pas vraiment revenu dans l'économie. Donc on se demande bien à quoi tout ça sert. Il est largement revenu par contre sur les marchés financiers avec les risques qu'on connaît. Les prix ont reculé de 0,2% sur un an en décembre en zone euro, une première depuis 2009, et les attentes d'inflation des acteurs de marché sont significativement dégradées. Alors je rappelle que quand les prix baissent, on court un risque de déflation. Qu'est-ce que c'est que la déflation ? Eh bien, c'est le nivellement par le bas, parce que si les prix baissent, vous n'achetez plus en vous demandant si ça ne va pas baisser encore plus. Et c'est un cycle infernal.
Et vous n'investissez pas,
les usines ne produisent pas, et tout le monde se retrouve exactement à l'inverse de ce qu'il espérait. Donc, la déflation, baisse au taux entretenu des salaires et des investissements, comme vous le rappeliez, est synonyme de marasme économique, et bien cette déflation, elle guette. En injectant des montagnes de liquidités dans le circuit économique, les rachats de dettes, version moderne de la planche à billets, doivent contrer ce danger. Au total, ce sont au minimum 1140 milliards d'euros que l'institution se prépare maintenant à injecter dans le circuit financier. Si l'annonce d'un tel programme d'assouplissement quantitatif était largement anticipée, notamment parce que M. Draghi avait habilement préparé les esprits, son ampleur, supérieure aux attentes des analystes, a agréablement surpris. L'injection d'argent frais doit provoquer une explosion de la demande pour les obligations souveraines et pousser leurs taux à la baisse. Mais les États peuvent déjà emprunter à des taux très bas sur les marchés et cela risque de limiter considérablement la portée du programme. Pour le Fonds monétaire international, le plan de la BCE sera insuffisant pour relancer l'économie européenne et pour soutenir la croissance exclusivement. Mais sa présidente, Christine Lagarde, a jugé crucial de passer par la case QE. La BCE a envoyé un signal très important au bon moment. C'est aussi félicité le ministre italien des Finances, Pier Carlo Padoan, dans la presse allemande vendredi. Même s'il ne fait pas de miracle, ce fameux QE européen pourrait apporter une petite aide en contribuant à renforcer le stimulus déjà à l'œuvre grâce au prix très bas du pétrole et à l'affaiblissement de l'euro par rapport aux autres monnaies internationales, selon M. Archer. Je fais une petite parenthèse parce que je me demande ce qui serait arrivé si le pétrole n'avait pas baissé et si l'euro ne s'était pas cassé la figure par rapport au dollar. La marge de manœuvre serait encore plus réduite et vraisemblablement, cette solution apparaîtrait déjà comme vaine.
Encore qu'il faille dire ici que la chute des cours du pétrole est une des bonnes causes de la déflation crainte en Europe actuellement.
Oui.
C'est artificiel, mais c'est le cas.
Absolument, donc c'est un effet tout à fait pervers. Mais si la politique monétaire peut créer les bases pour la croissance, c'est aux responsables politiques de favoriser les conditions de retour de la confiance et de l'investissement dans leur pays, a fait valoir M. Draghi. Ça, c'est le centre du truc. Le problème, c'est la confiance. Et si on ne la restaure pas, je ne suis pas certain que le rachat des dettes va contribuer à le faire. Ce qui va restaurer la confiance, c'est tout simplement de décider de faire les réformes qui sont toujours en panne, toujours en attente, et qui sont le nœud de l'affaire. Bon. Monsieur Draghi, il a rappelé jeudi les gouvernements et la Commission européenne à agir plus et ce rapidement. Il faut en plus des réformes structurelles de fond qui permettent d'accentuer la compétitivité d'un certain nombre d'économies, a renchéri vendredi Madame Lagarde. Je vais risquer une image audacieuse. Vous êtes dans un avion, les moteurs sont en panne et vous vous dites « Oh, aucune importance, je vais jeter du fret par la porte et puis tout ça va se remettre à voler ». C'est à peu près ça la situation dans laquelle on est. Enfin, j'exagère un peu, mais pas loin. En lançant des rachats de dettes à grande échelle, la BCE est passée outre les résistances allemandes. Les résistances allemandes, ce qui lui a valu en Allemagne d'acerbes critiques et des interrogations sur l'influence du pays en zone euro. La décision jeudi de l'institution monétaire qui siège à Francfort va à l'encontre de tout ce qui est sacré pour les Allemands en matière de questions monétaires et de gouvernance, affirmait vendredi le quotidien conservateur Die Welt sur sa une. Comment la BCE a détruit la confiance ? La BCE a contresens sur l'autoroute. Enfin, ça, c'est des titres. Une expérience dangereuse de la presse allemande. Évidemment, on se doute que l'Allemagne ne soutient pas ce genre d'initiative. Bien dans son rôle de quotidien populaire défenseur des petits épargnants, le tabloïd Bild relayait, lui, le cri d'alarme du président de la Fédération allemande des assureurs contre de nouveaux dommages à la culture allemande de l'épargne. À cause des taux d'intérêt toujours plus bas.
Il faut dire aussi que le système de rachat des dettes par la Banque centrale européenne, ça revient à mutualiser à toute l'Europe une partie des déficits. Or, l'Allemagne n'en a pas de déficit. Ça revient donc à faire payer par les Allemands une partie des déficits des autres nations.
Oui, mais ça, c'est la logique de l'Europe. Enfin, c'est la logique d'un État fédéral. C'est ce qui s'applique aux États-Unis. Et si les États riches ne venaient pas au secours des États pauvres, eh bien, les États-Unis auraient eu des tas d'occasions de se retrouver complètement en faillite.
Et aucun marché domestique, effectivement.
Absolument.
Il s'agit de protéger le marché pour tout le monde.
Voilà. Alors, si vous ne rentrez pas dans ce principe de mutualisation, eh bien, vous pouvez dire adieu à l'Europe. Elle ne se fera jamais. En plus, évidemment, de tout un tas de corollaires comme l'harmonisation fiscale, etc. Bon. La mutualisation sur l'ensemble des pays de la zone euro des risques de certaines obligations rachetées a particulièrement du mal à passer. Vous voyez, donc ça saute bien aux yeux du journaliste. Dans un pays qui a toujours été debout contre tout projet, voulant faire partager à tous les États membres les problèmes de certains d'entre eux, craignant qu'au bout du compte, la facture soit payée par le bon élève, c'est-à-dire l'Allemagne. On va s'arrêter là, on en reparlera probablement un incident de tout à l'heure à propos de la Grèce. Mais on le voit, rien n'est simple, rien n'est facile et rien n'est bien enthousiasmant.
Faites-vous partie d'une famille qui communique, de ces endroits harmonieux où on peut souper en paix en jasant de choses constructives et notamment en parlant d'argent. Puisque oui, il faut savoir parler d'argent à ses enfants, c'est du moins le sens d'un texte, d'Alexandre Vigneault paru dans la presse. Parler d'argent avec nos enfants. Tout dans notre société est ramené à son coût ou à sa valeur pécuniaire. Le litre de jus comme la prochaine tempête de neige. Faut-il préserver nos enfants du monde de l'argent? Parler d'épargne et de crédit avec eux leur évitera-t-il plus tard des soucis? L'argent est la première source de stress dans la population canadienne. Les soucis financiers causent de l'insomnie et la moitié des femmes, 40 % des hommes, causent de l'anxiété à 30 % des femmes, contre 17 % des hommes, et incitent près du tiers de la génération Y à mentir à leurs amis. Près de 90 % des Canadiens souhaiteraient par ailleurs avoir épargné davantage, dépensé moins, investi plus tôt ou de manière plus éclairée. C'est majeur, dit Suzanne Gendron, vice-présidente principale coopération et affaires au Mouvement Desjardins, évoquant notamment l'impact de ce stress sur la santé des gens. Comme société, on fait la promotion d'une saine alimentation et de comportements responsables au volant. Mais faisons-nous suffisamment d'efforts pour promouvoir la bonne gestion financière et l'épargne? Ce questionnement trouve écho dans bien des familles, puisque 80 % d'entre elles tentent de montrer à leurs enfants à gérer l'argent qui leur passe dans les mains. Manon et son conjoint, par exemple, se sont fixés un objectif. D'ici la fin de l'année scolaire, leurs deux ados doivent avoir appris à faire un budget qui tienne compte de leurs dépenses courantes, vêtements, cafétéria et de leurs loisirs. On veut qu'ils apprennent la valeur des choses, dit la femme de 49 ans, issue d'une famille modeste mais aujourd'hui à l'aise sur le plan financier. Elle a appris tôt à travailler pour rembourser un emprunt fait à son père et elle a proposé un contrat semblable à son fils pour l'achat d'un ordinateur qu'il souhaitait performant afin de jouer en réseau. Il a eu son bolet d'informatique, mais il devait le rembourser en faisant des travaux de peinture. Il n'a pas réussi à suivre le plan de paiement et à le rembourser complètement, raconte la mère de famille, qui croit néanmoins qu'il a appris quelque chose dans le processus. Il s'est aperçu qu'il est très difficile de se motiver après coup quand on a déjà le bonbon. La leçon n'est pas inutile dans un monde où règne le crédit et les formules de paiement différées. Impliquer les enfants de manière concrète dans un projet est une excellente façon d'amorcer leur éducation financière, selon Cathy Simard de l'ACF de l'Île-Jésus. Or, tous les parents ne savent pas nécessairement par où commencer, ni à quel âge commencer à parler d'argent. Doit-on préserver l'innocence de nos petits et leur éviter les considérations pécuniaires durant une partie de leur enfance? Il y a bien sûr des familles qui éprouvent de la gêne à parler d'argent, une réticence qu'on retrouve autant dans les milieux aisés que dans les milieux plus modestes, assure Cathy Simard. Elle estime cependant que d'ouvrir la discussion peut être un atout. Si l'enfant n'entend jamais parler d'argent, il aura peut-être du mal à comprendre un refus à l'une de ses demandes, explique-t-elle. Bon, même si on lui en parle, il ne comprendra pas un refus à une de ses demandes, là, je vous le dis tout de suite. Ces discussions peuvent avoir beaucoup de valeur, car l'un des facteurs clés dans notre compréhension de l'argent, c'est la confiance. Les parents sont des interlocuteurs de confiance avec leur degré d'implication dans l'éducation financière de leurs enfants est très important, fait valoir Gary Rabior de la Fondation canadienne d'éducation économique. Il ajoute d'emblée que les parents qui ont eux-mêmes fait des erreurs de gestion peuvent être de bons exemples, car ils connaissent déjà certains des pièges à éviter. On croit souvent qu'il faut dire aux enfants ce qu'ils devraient savoir, poursuit-il. La clé, c'est de partir d'eux. Il faut inciter les enfants à s'interroger eux-mêmes et se poser des questions. Alors, ce serait quoi les trucs qu'on peut enseigner aux enfants? On nous en donne quelques-uns au terme de cet article-là. Par exemple, éduquer les enfants à la publicité. La publicité qui leur crée des besoins infinis, finalement. Alors, qu'est-ce que la publicité et pourquoi elle est mensongère? Par exemple, Cathy Simard de l'ASF, elle, avait coutume d'illustrer la photo d'un hamburger célèbre. On ne nommera pas le Big Mac et de mettre à côté le Big Mac qu'on vous voit au restaurant. Demandez aux enfants de comparer les deux. Alors, la différence entre les deux, c'est la publicité. distinguer aussi entre ses besoins et ses désirs, amener les enfants à comprendre c'est quoi la différence entre un besoin fondamental et un désir. Traduire le prix des choses en heures de travail, autant pour l'enfant que pour le parent, pour que l'enfant soit amené à comprendre que le bien qu'il veut acheter, c'est du temps de sa vie qu'il paye. Alors, on peut réfléchir beaucoup, mais commencez à parler économie à vos enfants. Et tu, pourquoi pas faites-leur écouter notre émission. D'un coup, ils aimeraient ça. Les Beatles qui nous parlaient d'argent. Il me semble que ça fait pas très, très sérieux, mais enfin, c'est une opinion personnelle. On vous l'avait annoncé au micro, la gauche en Grèce menait. Aux dernières nouvelles, la gauche avait gagné, et, je dirais par une bonne marge. Elle n'est pas majoritaire, ceci dit, là, mais on a réussi à faire alliance avec un parti nationaliste qui veut aussi renégocier la dette. Alors, aux dernières nouvelles, toujours, Angela Merkel et l'Union européenne parlent d'envoyer des exorcistes dans le pays parce qu'il faut absolument casser ça. Pour vous dire, les mots ne sont pas neutres, Serge Truffaut le mentionnait dans Le Devoir d'hier, on a réussi à faire passer ce parti-là qui s'appelle Syriza comme un parti de gauche radical. Le mot radical comme dans radicaliser, là, c'est-à-dire préparer un terroriste à aller se battre en Syrie. c'est pas neutre comme on les a vraiment dépeints comme le mal. De quoi retourne-t-il?
Oui, alors après le scrutin de dimanche dernier, écoutez, l'état d'esprit n'est plus du tout le même chez les décideurs européens. Hein. Ce qu'on appelait le problème grec, avec un petit peu d'arrogance, je trouve, qui a failli faire s'effondrer la zone euro il y a 5 ans, il revient comme un boomerang. D'abord, ça a commencé avec l'échec du candidat à la présidentielle, M. Samaras, hein, on l'évoquait tout à l'heure. Et puis, la victoire, évidemment, de Syriza dimanche dernier. Alors, ça a intéressé deux journalistes du Monde, Sylvie Kaufmann et Cécile Ducourtieu, qui ont intitulé leur article « Bruxelles se prépare au retour du problème grec ». Les Européens l'ont clairement fait savoir ces derniers jours. Ils ne veulent pas aller à la confrontation d'emblée. Ils ne veulent pas d'un Grexit, même si la zone euro aurait aujourd'hui plus de possibilités de s'en remettre grâce aux instruments de contrôle dont elle s'est dotée pendant la crise, par exemple l'union bancaire. Le coût à la fois politique et économique est jugé rédhibitoire. Nous entendons que la grande majorité de la population en Grèce est heureuse d'être membre de l'Union européenne et de l'eurozone. Il faut que la Grèce se montre responsable et je suis sûr qu'elle le fera, a déclaré la chancelière Angela Merkel au sommet de Davos jeudi 22 janvier. Nous pensons que la Grèce veut et peut rester dans la zone euro, souligne Vladis Dombrovskis, vice-président de la commission chargée de l'euro dans le Wall Street Journal. Même position au FMI. Nous n'imaginons pas une sortie de la Grèce de la zone euro comme un possible résultat du scrutin, a fait savoir un porte-parole jeudi. Ce qui unit toutes ces réflexions, c'est le sentiment de confiance. On l'évoquait tout à l'heure, on sait que c'est un pivot de l'économie. Si vous n'avez pas de confiance, tout s'écroule. Et évidemment, si la Grèce, même si on dit « oh là là, tout petit PIB, c'est 2% du PIB de l'Union européenne, tout ce qu'on veut, etc. » Mais si la défiance commence à s'installer, c'est un jeu de dominos. Et après, au bout de cette cascade…
L'Italie, le Portugal, voilà, l'Espagne.
Exactement. Alors, il faut donc s'intéresser évidemment à cette histoire de remboursement. Les créanciers internationaux sont prêts à négocier le moment venu avec Alexis Tsipras, le dirigeant de Syriza. À condition, évidemment, que ce dernier fasse des efforts. Entendez que ce nouveau gouvernement grec s'engage à mettre en place des réformes n'aggravant pas le déficit du pays et de nature à stimuler la croissance de son PIB. Alors, de quoi on parle là? Par exemple, de faire entrer l'impôt, d'éviter que... Vous savez que depuis les élections, depuis dimanche, il y a un nombre considérable d'avoirs bancaires qui ont quitté le pays. C'est déjà pas un très bon signe.
Ouais, il faut savoir qu'en Grèce, il y avait des exemptions fiscales colossales. Un problème de corruption à grande échelle
total.
Pour l'élite du pays. Et que Syriza ne nie pas l'existence de la dette ou l'obligation éventuelle de la rembourser, pour la totalité, mais veut une politique qui relancerait l'économie de façon à ce que la Grèce soit capable d'affronter le fardeau financier, ce qu'elle ne peut pas faire actuellement.
Bien entendu. Au niveau européen, entre conservateurs et sociaux-démocrates, un consensus s'est formé ces derniers mois. Les politiques d'austérité seules ne suffisent pas pour relancer la croissance. Il faut ainsi aussi investir et réformer, ce que vous venez de nous rappeler. Les Européens reconnaissent aussi les sacrifices consentis par les Grecs, comprennent la fatigue de la population usée par 6 ans de crise et un chômage à des niveaux encore alarmants. Effectivement, je crois que le chiffre des moins de 25 ans au chômage, c'est 52%. C'est effrayant. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quels reproches on peut leur faire aux gamins de 25 ans, je veux dire, qui sont responsables de rien, qui ne sont pas ceux qui ont fait de l'évasion fiscale, qui n'ont pas de boulot et qui vivent dans des maisons, on est obligé de leur couper l'électricité? Il ne faut quand même pas exagérer.
L'époque où on sauvait la Grèce, où la Troïka sauvait la Grèce par son généreux plan de rationalisation, on leur avait dit, c'est jusqu'en 2012. Après 2012, ça va commencer à remonter. En 2012, on n'avait pas encore touché le fond. C'est pire aujourd'hui que ça l'était à ce moment-là.
Absolument. Pas question pour autant de commencer à parler renégociation de la dette avant d'être allé au bout du deuxième plan d'aide. Les décideurs européens le répètent sur tous les tons ces derniers jours. La Grèce devra tenir les engagements pris par le pays avec ses créanciers. Aussi dure que puisse être la formule, je crois qu'elle est juste. Parce que si on commence à rabioter la dette, ça, c'est le moment où on rentre dans la défiance. Et ça se retournera contre eux. Donc ce serait un mauvais service à leur rendre que de dire on va la couper en deux ou que sais-je. Qu'on l'étale sur 2500 ans, oui. Qu'on la supprime, non. Les Grecs doivent comprendre qu'ils élisent un nouveau gouvernement. Ils ne changent pas de pays. Celui-ci doit tenir son engagement. Effectivement, c'est une remarque qui a été faite par le président du Parti conservateur au Parlement européen, qui est un Allemand, mais je trouve que la remarque, elle est juste. Enfin, on change de gouvernement, on ne change pas de pays. Certains ont déjà fait savoir qu'un effacement pur et simple de tout ou partie des créances est inenvisageable, qu'une dette est une dette. Un premier plan d'aide de 110 milliards d'euros avait été accordé dans l'urgence en 2010 pour éviter la banqueroute. Un deuxième plan a été élaboré en 2012 de 130 milliards d'euros. Il n'est pas achevé. Les montants sont développés au compte-gouttes en fonction des réformes réalisées. Reste une dernière tranche à verser d'ici à fin février 2015. Je crois que c'est un peu plus de 3 milliards d'euros. En échange de réformes structurelles encore à mettre en place. La question de la dette, alors je vous donne deux chiffres parce que c'est vertigineux, le montant et le pourcentage en PIB. La dette grecque, c'est 321 milliards d'euros, ça représente à peu près 280 milliards de dollars. Et là le chiffre il est encore plus absolument vertigineux, c'est 175% du produit intérieur brut, 175%. On estime, certains économistes estiment que quand on est à plus de 90% du PIB, on est sur une pente qui est impossible à remonter. Bon, je vous laisse faire le calcul vous-même.
Et tout ça pour hypothéquer l'Acropole où des rénovations sont attendues parce que c'est vite.
Oui, absolument. Bah écoutez, moi je veux dire, défendre les rénovations de l'Acropole, je suis pour. Et si on me demande d'y participer, je le ferai parce que là, il faut quand même. La mémoire de Platon et d'Aristote n'est pas insultable. Alors, revenons aux choses sérieuses, si on peut les appeler comme ça. Pourtant, le fait que le poids de la dette grecque est difficilement soutenable, surtout dans un contexte de très basse inflation, fait son chemin et des aménagements sont évoqués. Couper dans le nominal de la dette ne sera pas acceptable. Elle est en grande partie détenue par les États. Cela représentera une perte nette pour les contribuables. Alors oui, parce que c'est vrai que si les voix qui demandent la réduction ou la suppression d'une partie de la dette s'élèvent, il faut aussi qu'elles prennent en compte que bah, tout ça, c'est le contribuable qui va payer. Si vous avez par exemple des comptes d'épargne dans les banques, ce qu'on appelle l'assurance-vie en France, qui est une forme d'épargne d'une créance sur l'État, eh bien, brutalement, une partie va se trouver détruite. Et donc, vous croyez avoir, je ne sais pas, moi, 1000 à la banque, et puis, vous apprenez que vous n'en avez plus que 700 parce que vous avez participé à la suppression d'une partie de la dette grecque. Donc, vous n'aurez peut-être pas exactement le même point de vue.
Ce qui fut le cas à Chypre, notamment.
Oui, 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 absolument. Seulement là, on est sur des montants qui peuvent être beaucoup plus importants. La négociation promet d'être très dure, prévient en tout cas M. Wolf. L'Allemagne ne... M. Wolf, c'est le président d'un cercle de réflexion qui s'appelle Bruegel, qui est un cercle de réflexion européen. L'Allemagne ne fera pas de cadeaux, mais en se battant, elle défendra aussi l'intérêt de tous les citoyens européens. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Les agendas politiques des créanciers de la Grèce compliqueront le jeu, Madame Merkel ayant par exemple plutôt intérêt à durcir le ton pour ne pas donner du grain à moudre à ceux qui l'accusent de mener une politique trop centriste. D'autres, au contraire, pourraient être tentés de jouer une partition plus accommodante pour calmer leur aile gauche. Moi, je vous dis, tout ça, c'est du pipi de chat. La seule décision à prendre, c'est la mutualisation, on l'évoquait tout à l'heure. Si vous ne rentrez pas dans le vif du sujet avec des mesures de ce type, où on accepte une bonne fois pour toutes que les gagnants aident les perdants, c'est fini, on n'y arrivera pas.
Pour que l'Europe soit. Les sujets réconfortants, s'il en est, surtout quand il fait froid, le single malt, le scotch whisky. Je vous avouerai que j'ai un faible pour les bons scotch. Ma thèse, c'est qu'il est des single malt qui vous feront posséder un terroir plus sûrement que des aïeux qui y seront ensevelis. Il faut savoir que c'est quelque chose de sérieux, le whisky en Grande-Bretagne, et surtout en Écosse, bien sûr. L'industrie du whisky, c'est 7 milliards pour les Britanniques. 7 milliards, pensez-y bien.
Ah, on a parlé de la Grèce et de ses malheurs, mais elle n'est pas la seule et plus près de nous. Le Venezuela est un pays qui glisse vers la faillite. Et c'est terrible parce que y a des files d'attente devant les commerces invraisemblables. On n'arrive plus à trouver de lait, de beurre. Tenez-vous bien, de papier toilette. C'est un peu triste, pas drôle d'évoquer tout ça. Je crois que, évidemment, les prix du pétrole ne sont pas pour rien dans ces histoires, mais là aussi, on retrouve les problèmes d'un pays qui n'a pas réformé, pas investi.
Et qui a tout mis dans le pétrole, exactement comme on aurait pu le faire voici quelques mois ici. Je vous parlais de whisky tantôt. Eh bien, c'est peut-être une solution pour Sao Paulo. Pourquoi je vous parle de Sao Paulo? Eh bien, il faut savoir, Sao Paulo, c'est le cœur économique du Brésil. C'est une province, un des États du Brésil. Il y a 40 millions de personnes, dont 20 millions dans la ville de Sao Paulo. Eh bien, Sao Paulo envisage sérieusement de rationner l'eau, c'est-à-dire de l'ouvrir 2 jours par semaine seulement pour les habitants, puisqu'il ne pleut plus assez pour remplir les réservoirs. Alors, c'est un drame environnemental. Ça commence, dirais-je.
Quelques nouvelles des riches. Alors, quels riches? Eh bien, Google et Apple qui se font une guerre sans merci. On sait pourquoi. Eh bien, figurez-vous que l'équipe qui est chargée de surveiller Apple chez Google a publié un rapport en dénonçant quand même 3 failles de sécurité d'OS X. OS X, c'est le système qui permet d'utiliser les machines Apple. Et alors que Apple le savait depuis 90 jours. Donc faites attention parce que, évidemment, quand vous téléphonez, quand vous envoyez des petits textos, ça risque de poser des problèmes. Merci, Google.
Dans la catégorie « Il y en a fumé du bon », le gagnant de la semaine est Raoul Castro. Raoul Castro qui exige la levée de l'embargo américain. C'est une chose pour rétablir et normaliser les relations. Mais il voudrait également que les États-Unis réparent les dommages causés à Cuba par ce long embargo, en plus de leur rendre la base de Guantanamo, sur laquelle les Américains ont entreposé, je vous le rappelle, quelques dangereux terroristes qui ne veulent pas voir nulle part dans le monde. Alors, c'est beaucoup d'espoir, semble-t-il.
Moi, je reste sur l'informatique pour vous annoncer qu'il y a 5 nouvelles applis pour draguer sur les smartphones. Ah, c'est très intéressant. Alors, il y en a une qui s'appelle « On s'est pas déjà vu quelque part ». Et puis une autre « Bonjour madame », c'est sympa. Hein.
Et c'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à tout le monde.